Bon début d'après-midi, nous sommes le mercredi 28 juillet 2021. Si vous pensez que c'est terminé, ce n'est pas encore terminé. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que le variant Delta semble prendre de plus en plus racine au Québec. Si au début on disait on est bon, on est en train de l'éviter, c'est pas le cas. Il semblerait qu'on soit dans les cas répertoriés de contamination à la COVID, dans un cas sur quatre qui serait d'origine de contamination par le variant Delta. On va parler de cette situation parce que c'est le cas un peu partout à travers le monde et je pense bien qu'on n'y échappera pas. Gaston Dessert et les médecins, bien sûr, épidémiologistes à l'Institut national de santé publique du Québec. M. Dessert, bonjour.
Bonjour.
Dites-moi, M. Dessert, c'est un peu particulier parce qu'il y a quelques jours, on dit on est capable d'éviter ça si on avait la double vaccination, mais on ne passera pas à côté. Le Delta va nous frapper et peut-être davantage que ce qu'on connaît aujourd'hui.
Ah, je pense que clairement, depuis plusieurs semaines, on sait que le variant Delta va être le virus qui va prendre le plancher là, au Québec comme il l'a fait ailleurs. Maintenant, c'est certain que pour le moment, la proportion de tous nos cas qui sont attribuables au variant Delta est un peu plus faible là, que ce qu'on peut voir en Ontario ou dans plusieurs États américains ou pays européens. Mais le virus, le variant Delta a des caractéristiques en termes de contagiosité qui font que c'est de loin le virus qui est le plus capable de prendre de l'expansion et c'est une question de temps avant qu'il devienne le virus le plus fréquent au Québec.
Bon, il est plus contagieux, mais moins dangereux. Est-ce que c'est vrai?
Moins dangereux, non. En fait, la question de est-ce qu'il est plus dangereux, parce que ça, évidemment, si on avait un virus qui était à la fois plus contagieux et plus dangereux, là, ça doublerait la menace. Je vous dirais, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas des caractéristiques qui augmentent ce qu'on appelle la virulence, donc la capacité à causer une maladie beaucoup plus grave que les autres virus, mais je pense qu'on ne doit pas le craindre moins que les virus antérieurs.
La situation de savoir qu'on serait peut-être dans les cas répertoriés à 1 sur 4 ou 25 % des cas répertoriés serait d'origine de contamination par le virus, le variant Delta, ça fait en sorte que, est-ce qu'on peut se fier à cette statistique? Parce que les tests qui sont faits, après ça, on fait une projection. Vous êtes épidémiologiste, vous le savez. Donc, est-ce qu'on, avec 1 sur 4, est-ce qu'on sous-estime la contamination ou si on est à peu près sur la cible?
Ben, en fait, je vous dirais probablement que l'ordre de grandeur est bon. Maintenant, est-ce que c'est 20 % 25 % 30 % Ça, il y a probablement des variations là pour lesquelles on n'est pas capable actuellement d'être aussi précis qu'on le voudrait. Par contre, je pense que ce que ça nous dit, c'est que il y a quelques semaines, la proportion des cas qui étaient attribuables au variant Delta était beaucoup plus faible, que ça augmente comme on s'y attendait. Ça a augmenté peut-être même un peu moins vite que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Mais, encore une fois, c'est un virus qui a ce qu'on appelle un avantage compétitif là sur les autres virus, qui fait que, immanquablement, c'est lui qui va prendre le terrain. Là.
Donc, c'est la course entre la vaccination et le variant Delta.
Ben, c'est certain que si on a une population qui est plus vaccinée, on va avoir moins de cas. Maintenant, on pourrait avoir moins de cas et que, malgré tout, ces cas-là soient attribuables au variant Delta. Parce que le variant Delta, lui, encore une fois, il y a un avantage sur les autres coronavirus et les cas qu'on va voir vont être, dans un cas où on aurait une population très fortement vaccinée, vont être moins nombreux, mais pourraient quand même avoir une proportion due au variant Delta qui soit très élevée.
Je suis pas capable d'oublier un des motifs qui est correct, rationnel, pour nous dire que ce que l'on veut éviter, c'est l'éclatement du réseau de la santé. On l'a vécu, il y a eu du délestage d'interventions, on a monopolisé des groupes de soutien ailleurs que dans les endroits où initialement ils étaient placés. Est-ce que le Delta fait en sorte que ça pourrait mettre encore une fois le système de santé en péril et que là, on soit, nous, obligés de refaire une vaccination pour éviter que le système craque. Autrement dit, c'est-tu vraiment la santé de tous? Le Delta n'est pas mortel. Il n'y a pas d'hospitalisation très grave à ce moment-ci. Est-ce qu'on fait quelque chose pour sauver la machine ou pour se sauver nous-mêmes?
Ben, je pense qu'il y a deux choses. Évidemment, ce dont vous parlez, c'est beaucoup lié au fait que les gens qui étaient hospitalisés, qui décédaient, c'était initialement beaucoup des personnes âgées parce que ce sont les personnes les plus vulnérables. Mm-hmm. Actuellement, avec deux doses de vaccin, si on rencontre le virus, le variant Delta, la majorité des gens vont pas faire l'infection. Ceux qui vont faire l'infection vont souvent faire une maladie moins grave. Donc, la protection donnée par deux doses de vaccin contre le variant Delta, elle n'est pas parfaite, mais elle est très bonne. Là où on a un problème, c'est effectivement la proportion qui n'est pas si petite de gens qui ne sont pas vaccinés dans les groupes d'âge là entre 12 et 29 ans ou 35 ans, là, on est avec à peu près 70% des gens qui auraient reçu une première dose. Ça veut dire qu'on a 30% des gens qui sont complètement donc non vaccinés. Et ça, quand on parle de presque 20 ans d'âge, là, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Et évidemment, pour un virus très contagieux comme le variant Delta, là, ça donne de la place pour causer beaucoup de maladies. Évidemment, les moins de 30 ans sont pas des gens qui vont fréquemment mourir de la COVID-19, heureusement. Mais c'est sûr que si on a des centaines de milliers de personnes qui sont infectées, il y en a là-dedans là, qui vont effectivement avoir malgré tout une maladie grave. Et de plus en plus, comme médecin, on est préoccupé là, de ce phénomène-là qu'on appelle la COVID longue, qui est présente chez les jeunes et qui est, en tout cas, assez handicapant. Les gens traînent des fatigues importantes, des maux de tête, des essoufflements, des différents problèmes là, pour lesquels on n'a pas encore assez de recul, mais la proportion des gens qui ont ces phénomènes-là est quand même assez élevée pour que, même si on a 20 ans, on veut pas que ces gens-là aient des risques d'attraper même, entre guillemets, seulement la COVID longue.
Je comprends. Je vous mets devant un scénario. Vous savez que là, c'est l'été, mais dans un mois, on retourne à l'école. Hein? Mm-hmm. Il y a plusieurs jeunes qui vont retourner à l'école. À date, on n'a pas de plan, j'ai l'impression. En tout cas, nous, on l'ignore comme citoyens. La ventilation dans les écoles. Est-ce que les enfants devront porter le masque ou pas porter le masque? Est-ce qu'ils vont être vaccinés à l'école en entrant? Parce que certains, avec la date qui arrive, puis que ça prend 4 semaines pour une deuxième dose, on sera en plein milieu de la semaine scolaire. Comment vous envisagez ça comme épidémiologiste? Est-ce que ça va devenir ça un lieu possible de l'émergence de cas?
Ben, c'est clair que les écoles sont des endroits où on regroupe ensemble plusieurs centaines, voire quelques milliers d'individus qui ont des contacts relativement importants. Donc, oui, les écoles, on l'a vu à l'automne dernier, ce sont des lieux où la transmission peut se faire facilement. Ceci étant dit, je pense que le gouvernement a espoir que les gens viennent de plus en plus nombreux pour se faire vacciner et que le fonctionnement des écoles puisse être le plus normal possible dans les circonstances. Maintenant, c'est clair que le variant Delta complique les choses parce que le variant Delta étant plus contagieux, ben, ce qui pouvait causer une éclosion peut-être petite auparavant, ben là, risque de causer de la transmission plus grande. Et évidemment, c'est pas souhaitable là, que les écoles soient prises dans le même genre de tourment là, que celui dans lequel ils ont été dans la dernière année, avec donc la gestion des cas. C'est extrêmement compliqué. Donc, c'est certain que on entend là, le ministre et le premier ministre dire que notre gestion de l'école va dépendre de la couverture vaccinale qu'on va obtenir, puis évidemment de l'évolution de la situation épidémiologique. C'est sûr que si...
Vous êtes chanceux de l'avoir entendu, le ministre de l'Éducation. Je ne l'ai pas entendu, ça fait un bon bout de temps, moi, là.
Oui, ben non, c'est plutôt du côté de la santé puis du premier ministre où là, il dit ce qu'on va faire va dépendre de la couverture vaccinale qu'on atteint. Et puis ce qu'on souhaite, c'est d'atteindre une couverture vaccinale qui soit la plus élevée possible pour éviter qu'on ait trop de problèmes puis qu'on soit obligé de remettre en place toutes sortes de mesures pour faire que l'école puisse avoir lieu malgré tout.
On a assez de gérer la situation de santé sans que le milieu scolaire vienne additionner à la difficulté de passer à travers cette affaire-là. Docteur Dessert, merci beaucoup de nous avoir dit la situation. Alors, on porte encore le masque, on garde la distanciation sociale et puis on se fait vacciner. Je pense bien qu'il n'y a pas d'autre solution.
Je suis tout à fait d'accord. Puis on se fait vacciner non seulement avec la première dose, mais avec la deuxième. Mais ceux qui n'ont pas eu encore une première dose, c'est urgent qu'ils viennent se faire vacciner.
OK. Merci beaucoup, Dr. Gaston Dessert. Merci bien. Au revoir. Alors, on va en parler justement de l'école. Il y a Olivier Drouin, vous en avez entendu parler très certainement. C'est le fondateur de l'initiative citoyenne que l'on appelle COVID-École-Québec.org. Il est avec nous. Olivier Drouin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez, vous, tout au cours de cette pandémie, répertorié dans toutes les écoles possibles et imaginables la situation de tant de ventilation que de d'autres caractéristiques de prévention. Quel est le portrait au moment où on se parle à un mois et quelques jours de la rentrée scolaire?
Oui, effectivement. Bien, on a connu de septembre 2020 à juin 2021 plus de 50 000 cas dans les écoles. Donc, Dr Dessert en a bien parlé tout à l'heure. C'était le tourbillon, la gestion des cas. On est présentement à un mois de la rentrée. Vous avez mentionné à la blague là, le plan qu'on n'a pas vu encore. Bien oui, le ministre Roberge a déposé un plan le 2 juin et il appelait ça le plan retour à la normale. Donc, le plan pour la rentrée, c'est qu'il n'y aura pas de masque pour les enfants, pas de bulle classe, réduction dans la distanciation, désinfection et lavage des mains. Donc, c'est certain que dans le contexte actuel, ce plan-là ne passera pas la route, là, avec tout ce qu'on vient d'entendre de Dr Dessert. Et j'étais très, très heureux d'entendre Dr Dessert mentionner la COVID longue parce que, pour moi, l'unité de mesure des hospitalisations, les soins intensifs, et c'est pas la seule chose à regarder. Nos enfants, les 50 000 enfants ou adultes dans le milieu scolaire qui ont été impactés, ont tous le potentiel d'avoir des symptômes à long terme de la COVID longue, même s'ils ne sont pas aujourd'hui à l'hôpital. Donc, c'est très, très important de prendre ça au sérieux.
Le présentiel dans l'éducation, ça me semble important. Oui, on s'en est sorti avec l'école à distance. Ça a été compliqué pour tout le monde. Je pense que ça a demandé au corps professoral ou direction d'école un travail exceptionnel. Et quand je dis exceptionnel, c'est qu'il ne faudrait pas que ça devienne la norme pour une prochaine année. C'est les mêmes choses, je présume, pour les étudiants. Alors, est-ce qu'on a réglé le problème de la qualité de l'air dans nos écoles? Parce que le ministre nous a dit oui.
Non, pas du tout. En fait, ce que le ministre a annoncé un peu avant la relâche, c'était un appel d'offres qu'il allait faire cet été, qui est d'ailleurs sorti le 16 juillet seulement, pour lequel il voudrait acheter pour les écoles du Québec des détecteurs de CO2. Donc, le CO2 étant une simulation pour la qualité de l'air dans l'école. Mais aucune mesure n'a été annoncée pour changer, la filtrer avec des purificateurs ou avec des échangeurs d'air dans les écoles. Et même l'appel d'offres, n'est pas conclu, va commencer peut-être en septembre, mais il va probablement s'étirer pour l'année au complet. Donc, c'est une bonne mesure, les détecteurs de CO2, mais c'est la moitié d'une bonne réponse. La portion aération n'a pas été adressée. Tous les gens dans le milieu scolaire pourront vous le dire. Que la qualité de l'air n'est pas acceptable en ce moment.
Exact. Olivier Drouin, juste l'expertise que vous avez développée en suivant ça au quotidien, est-ce qu'on est prêt pour une rentrée scolaire dite normale?
J'aimerais vous dire oui de tout mon cœur, mais malheureusement, je crois que non. Vous avez lu, comme moi, probablement l'article du Devoir hier sur le taux de vaccination des 12-17 ans. Oui. On est à probablement 28%, je crois, des deux doses aujourd'hui, 79%. Mais la différence des gens qui ne sont pas vaccinés, ça ne sera pas bien distribué dans la population. Donc, il y a des écoles qui vont être beaucoup plus frappées que d'autres. Je pense à Montréal-Nord, Outremont, tout ça. On parle des 12-17 ans, mais les 5 à 11 ans, là, les écoles primaires, il y a zéro vaccin qui est disponible en ce moment. Donc, on sait que le Delta s'attaque beaucoup aux non-vaccinés. Eh bien, on aura au moins 500 000 élèves du primaire non-vaccinés, plus tous ceux qui ne le seront pas au secondaire. Donc, malheureusement, je prévois une rentrée assez similaire à celle de l'an dernier, avec beaucoup d'éclosions mais des éclosions de delta plus transmissibles.
Merci beaucoup, Olivier Drouin, fondateur de l'initiative citoyenne qui s'appelle COVID-École-Québec.org. Merci de nous avoir remis un peu à notre place dû aux vérifications que vous avez faites. Merci bien.
Un grand plaisir.